bonsoir. L'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et les Nations unies se disent préoccupées par l'impasse persistante dans le dialogue entre les participants sur les modalités de l'accord du 31 décembre 2016. Dans un communiqué publié jeudi dernier, les quatre organisations appellent toutes les parties prenantes à redoubler de bonne foi les efforts qui sont les leurs afin de parachever promptement les pourparlers en cours. Comment analyser cette déclaration? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 22 février 2017. Participe à l'émission pour les débats Didier Molucho, député national et cadre du MSR, parti de l'opposition. Il est secrétaire exécutif du G7, membre du Rassemblement. Monsieur Molucho, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Guillaume Mandjolo, secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens et communicateur de la majorité présidentielle. Maître Mandjolo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Jeff Modimbi, professeur à la faculté des sciences politiques et administratives à l'Université de Lubumbashi. Professeur Modimbi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre par son RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78. Et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Dans un communiqué paru simultanément jeudi dernier à Addis Abeba, à New York, à Bruxelles et à Paris, l'Union africaine, les Nations unies, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie exhortent les parties prenantes aux négociations politiques directes en RDC à conclure rapidement l'accord du 31 décembre 2016. Les quatre organisations déplorent le retard enregistré dans la mise en œuvre des modalités de cet accord qu'elles considèrent comme essentiel à la préservation de la légitimité des institutions de la transition jusqu'à la tenue des élections. Les détails avec vous, Jean-Pierre Elali.
Dans leur communiqué conjoint, les quatre organisations se disent préoccupées par l'impasse persistante dans le dialogue sur les modalités de mise en œuvre de l'accord politique du 31 décembre. Elles constatent que 6 semaines après avoir convenu des modalités de gestion de la période de transition devant conduire à la tenue d'élections paisibles et crédibles en décembre 2017, les parties n'ont toujours pas conclut les discussions sur la mise en œuvre effective de cet accord. Cette situation, poursuit-elle, porte en elle les risques de saper la volonté politique qui a permis la signature de cet accord. Ces organisations partenaires appellent toutes les parties prenantes, y compris la majorité présidentielle et l'opposition, à redoubler de bonne foi leurs efforts afin de parachever promptement les pourparlers en cours. Elles soulignent la nécessité pour toutes les parties de se mobiliser en appui aux efforts de médiation de la Cinco. Enfin, pour elle, la mise en œuvre intégrale et rapide de l'accord est essentielle à la préservation de la légitimité des institutions de transition jusqu'à la tenue des élections.
Merci Jean-Pierre Elali. Didier Molucho, je rappelle que vous êtes député national et cadre du MSR, parti de l'opposition. Vous êtes secrétaire exécutif du G7 qui est membre du Rassemblement. Et comment vous analysez cette déclaration de ces quatre organisations internationales?
Merci madame pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur ces communiqués. Moi je crois que ces organisations se préoccupent du retard et ce qui est une bonne chose parce que le processus électoral en République démocratique du Congo intéresse aussi bien le Congolais que le partenaire internationaux. Et vous vous souviendrez que le même quatre organisations avaient déjà fait l'année dernière un communiqué pour appeler les parties prenantes en République démocratique du Congo à engager un dialogue. Et maintenant que après tous ces appels, il y a finalement eu un dialogue qui s'est engagé et qui a connu la participation de tout le monde, et qu'un accord a été signé, c'est tout à fait normal que ces organisations se préoccupent du retard mis dans la mise en œuvre de cet accord.
2 mois après la signature de cette, près de 2 mois, je dirais, après la signature de l'accord du 31 décembre 2016, rien n'est fait. Qu'est-ce qui bloque finalement la mise en application de cet accord?
Madame, si vous lisez l'accord, l'accord est clair. Et bien sûr, l'accord a prévu qu'il y ait des modalités de mise en œuvre de certaines dispositions de cet accord. Et les discussions ont été engagées pour arriver à signer à l'arrangement particulier de mise en œuvre de cet accord. Mais qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est les interprétations que on s'est fait de l'accord sur les dispositions qui paraissent pourtant claires et écrites en français clair. Aujourd'hui, je peux dire que ce qui bloque, c'est la nomination du Premier ministre qui doit diriger le gouvernement d'Union nationale. Ce qui bloque, c'est l'opposition de nos amis sur le rôle que doit jouer la CINCO dans l'accompagnement de cet accord, de la mise en œuvre de cet accord. Et je pense que c'est essentiellement le point sur la mise en place du gouvernement d'Union nationale.
Et donc vous renvoyez, vous rejetez la faute à la majorité présidentielle?
Je demande seulement à la population elle-même d'apprécier. C'est pas à moi de jeter la faute à qui que ce soit. L'accord a été signé et l'accord stipule clairement ce qui doit être fait pour la mise en œuvre du gouvernement d'Union nationale. La grande question, c'est la désignation du Premier ministre. Au niveau de la désignation du Premier ministre, nous, au niveau du rassemblement, et nous nous en tenons à l'esprit et à la lettre de l'accord, il est stipulé que le gouvernement est dirigé par le Premier ministre présenté par l'opposition qui n'a pas participé au dialogue du 18 octobre, donc le rassemblement. Et ce Premier ministre est nommé par le Président de la République. Ça, c'est l'accord. Donc pour nous, la modalité de mise en œuvre, c'est que ce Premier ministre soit présenté par le Président du Conseil des Sages du Rassemblement. Et c'est ce qui a été fait. Nous nous considérons que, pour le Rassemblement,
Le Président du Conseil des Sages du Rassemblement avait déjà proposé un nom, et à son âme, c'était M. Tshisekedi. Est-ce qu'il avait proposé un nom déjà pour le Premier ministre?
Oui, madame, parce que vous avez bien suivi, après le décès du président Tshisekedi, beaucoup de gens se sont prononcés sur oui ou non le président Tshisekedi avait proposé un nom. Vous avez suivi, avant sa mort, il y a eu des débats autour du candidat Premier ministre et toutes les composantes du rassemblement se sont prononcées pour dire que le Premier ministre devait être présenté par l'UDPS. Et ces consultations terminées, le président Tshisekedi, paix à son âme, avait transmis un courrier à la CINCO.
Mais la CINCO ne le reconnaît pas, selon l'abbé Chollet.
C'est pas exact. La CINCO a réceptionné les courriers transmis par le membre du rassemblement au président de la CINCO. J'ai dit bien courrier transmis au président de la CINCO.
Alors, après la dernière rencontre entre la CINCO et le chef de l'État dernièrement, le chef de l'État a demandé à ce qu'on lui propose 3 noms afin qu'il puisse désigner ou choisir un premier ministre. Vous vous en tenez à dire que vous n'allez présenter qu'un seul nom, un seul candidat?
La question au niveau du rassemblement ne se pose pas en ces termes-là. La question au niveau du rassemblement se pose en l'application de l'accord. Parce que vous savez, madame, à partir du moment où vous commencez à sortir de l'esprit et de la lettre de l'accord, vous ouvrez la porte à de dérives qui risquent de conduire même à ce que l'accord ne soit même plus mis en œuvre.
Merci M. Molichou. Maître Guillaume Mandjolo, secrétaire général de l'Union des libéraux démocrates chrétiens et communicateur de la majorité présidentielle. Maître Mandjolo, comment vous analysez cette déclaration de ces organisations internationales?
Merci madame, vous savez très bien que la communauté internationale nous accompagne, c'est depuis un certain nombre d'années, et d'ailleurs les contingents les plus importants de la MONUSCO, enfin de l'ONU, se trouvent en RDC, et cet accord prend sa source notamment dans l'accord cadre d'Addis Abeba avec toutes les résolutions qui ont suivi par la suite, ce qui donne sa portée constitutionnelle. Et lorsqu'on regarde la situation de plus près, j'ai entendu l'honorable député dire qu'il appelait à la population de pouvoir prendre ses responsabilités par rapport à l'exécution éventuelle. Et ça me pose un problème parce que, vous savez, la révolte métaphysique...
Il a appelé la population, vous l'avez suivi.
Oui, il vient de dire qu'en ce qui nous concerne, par rapport à ceux qui bloquent l'accord ou pas, je prends en témoin la population, c'est ce qu'il vient de dire. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas à lui de pouvoir dire, il dit bah, que la population regarde qui bloque, c'est ce qu'il a dit.
Allez-y.
Donc, c'est ce que j'essaie de répéter, c'est ce que j'ai retenu. Alors, moi, je me trompe, je me semble que c'est ce qu'il a dit. Et moi, j'ai dit non, lui représente la population. Il est député. Et par conséquent, ce qu'on appelle la révolte métaphysique et appartient à ceux qui connaissent, qui maîtrisent les choses. Donc, c'est à lui, entre l'opposition, les rassemblements face à la majorité, de pouvoir discuter ensemble, voir quels sont les ajustements raisonnables qu'on peut avoir pour pouvoir avancer. Il s'agit de ça pour l'instant. Il ne s'agit pas de se jeter la faute, c'est la faute X, Y, il ne s'agit pas de ça. Maintenant, si on doit revenir à l'essentiel, madame, dans les deux accords, c'est-à-dire que d'abord à la Cité de l'Union africaine et par la suite, par l'étruchement de l'article 24 qui donne lieu aux négociations sollicitées par, enfin, demandées par les chefs de l'État, c'est lui qui demande à la CENCO, qui donne mission, qui mandate la CENCO pour aller faire venir les autres. C'est lui qui demande ça. On ne lui a pas imposé. Il a demandé. Il a ouvert la porte pour qu'on reste dans les cadres de la paix. Finalement, ils acceptent les bons offices de la CENCO, ils viennent. On discute. Dans les deux textes, cité l'Union africaine et à la CENCO, il est dit clairement ceci. On ne violera pas la Constitution. Toutes les institutions, puisqu'à un moment donné, il me semblait-il, l'opposition au rassemblement avait décidé de faire un régime spécial, ce qui était anticonstitutionnel. Ils sont revenus au bon sentiment, de sorte à ce qu'on applique la Constitution avec la Constitution. C'est ce qui est dit dans l'accord. Alors, si vous voulez appliquer la Constitution, les mandants, donc c'est lui qui a demandé à la CENCO d'aller chercher les gens d'opposition qui restaient en dehors du système, a dit... Il faut conserver la voie de la Constitution. On ne modifie pas ce processus. Très bien. Puisqu'il est chef de l'État avec toutes les prérogatives lui dévolues par la Constitution. Et l'applicabilité, au fait, notamment de la nomination, est de son fait. On ne peut pas lui imputer quoi que ce soit. Quel est le problème? Nous devons, dans ce pays, sortir de la sacralité des individus.
Donc, il y a un problème d'interprétation des textes, là, je vois. Oui, l'opposition a son interprétation, la majorité interprète à sa manière aussi, et donc, c'est le blocage.
Non, madame, il n'y a pas d'interprétation qui soit de nature à bloquer la situation. C'est lui qui mandate la CENCO pour aller chercher les autres pour venir aux négociations. Il y a l'esprit et la lettre de la Constitution qui est là, qui doit être appliquée. Qui doivent être appliqués. C'est tout simplement ça. Et comment on les applique? J'ai dit qu'on puisse sortir de la sacralité des individus. Présenter trois personnes, quel est le problème?
Et présenter une personne, quel est le problème?
Le problème, c'est qu'on doit laisser les choix. Parce qu'en ce moment-là, si vous présentez une seule personne, vous amputez une prérogative du chef de l'État de faire d'opérer les choix. Ça n'a jamais été le cas dans cette République depuis qu'on a institué la nouvelle Constitution. Ça n'a jamais été le cas. Les chefs de l'État doivent avoir la latitude d'opérer un choix. Autre chose, madame.
Dans l'accord, on n'a pas dit que le chef de l'État devait faire un choix. Le rassemblement propose un premier ministre.
Madame, l'honorable député a eu au moins la bonne foi de dire certaines choses. Il a dit qu'on puisse présenter un candidat. Mais derrière ça, enfin, qu'on présente le premier ministre, pas un candidat.
Ben oui, qu'on présente.
Bon, c'est pas bon. Néanmoins, c'est dit dans les textes. L'opposition rassemble présente le Premier ministre.
Le Premier ministre.
C'est ce qui est dans les textes. On peut lire les textes, si on l'a. C'est ce qui est dans le texte. Mais tout de suite après, il est dit, on parle des arrangements particuliers pour la mise en œuvre. Il s'agit de ça. Et comment on met en œuvre cette disposition-là? Quel est l'arrangement particulier qui permettrait de mettre en œuvre cette disposition? Il s'agit de ça. Voilà le problème. Si vous voulez vous situer dans la situation des sons de, parce que quand j'entends les sons de cloche, nous sommes dans la production de ces faits du comportement des sons de. À sons de, on avait dit ceci, mais on n'est pas sons de. On n'avait pas une constitution. On n'est pas soumis à une constitution. Il n'était pas soumis à une constitution à sons de. Aujourd'hui, nous sommes tous soumis à la constitution. Plus loin encore, madame, c'est là où il faudra me dire la vérité aux gens qui puissent entendre de quoi il s'agit. Moi, je n'invite pas la population de pouvoir prendre éventuellement ses responsabilités. Je m'invite, moi, à pouvoir donner quelques orientations simples. Une fois ces premiers ministres nommés par les chefs d'État, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Il doit passer devant
au Parlement.
Le Parlement. Est-ce qu'ils ont la majorité au Parlement? Ils ne l'ont pas. Ce qui fait que l'entente que vous mettez en place, la quête de la paix, de cette lumière perpétuelle dont on a besoin dans ce pays, nécessite absolument qu'on puisse composer des très bonnes fois, qu'on avance dans la bonne direction. On ne peut pas commencer dès à présent avec des bras de fer qui ne sont pas nécessaires. Quel est le problème dans cette République où on a les
fétiches? Mais vous pensez que le rassemblement proposant le premier ministre, ce dernier aura affaire, sera bloqué au niveau du Parlement?
Oui, madame.
On parle des arrangements particuliers.
Si nous sommes. Ben oui, arrangements particuliers par rapport à la mise en œuvre, mais on a, tous les processus, on ne tient pas. Il est député, c'est très bien comment ça fonctionne. Non. Vous savez, lorsque vous avez posé une question tout à fait utile en disant est-ce que les DQUS, l'illustre DQUS, monsieur Étienne Tshisekedi, avait-il laissé un nom? Il paraît que non. Il n'a pas laissé de nom. Parce que ceux qui devaient recevoir cette nomination, ils ne l'ont pas reçu. C'est ce qu'ils nous ont dit. Bon, maintenant, ils disent non, c'est faux, ils mentent. Ah ben voilà, si tout le monde ment.
Et puis,
plus loin, attendez.
Rapidement, parce qu'on doit donner la parole au professeur.
Oui, un peu plus loin, il nous revient par ailleurs que s'il avait proposé un nom, M. Katebe ne pourrait pas se prononcer. Or, il s'est prononcé aussi comme étant candidat. Mais finalement, nous sommes dans une sorte de cacophonie qu'eux-mêmes savent. Parce qu'on ne peut pas nous dire à la fois que, malheureusement, on ne peut pas faire parler les morts, c'est un peu trop facile. Mais en l'espèce ici, M. Katebe dit qu'il n'y avait pas de nom.
Merci, Maître Manjolo, professeur Jeff Boudimbi, professeur à la faculté de sciences politiques et administratives à l'université de Kinshasa. Professeur, comment vous, quelle lecture vous faites de cette déclaration de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie qui s'inquiète de l'impasse persistante dans le dialogue entre les participants sur la modalité d'application de l'accord du 31 décembre 2016.
Merci beaucoup, madame, pour la question que vous venez de me poser. Avant d'y répondre, je voudrais préciser une chose. Que en considérant la manière dont le pouvoir est exercé en Afrique en général, et en particulier en République démocratique du Congo, j'ai tiré la leçon suivante. Le pouvoir politique n'a pas d'âme. Le pouvoir politique n'a pas de cœur devant la préservation des intérêts. Alors, la déclaration de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'Organisation internationale de la francophonie table sur la bonne volonté des acteurs politiques congolais. Mais, madame, je voudrais vous dire ceci, que c'est aussi ça l'erreur de la CENCO. Parce que la CENCO a fait vraiment sa médiation de bonne foi, espérant que les acteurs politiques congolais feront aussi montre ou preuve de bonne foi. Mais hélas, devant la préservation des intérêts, le pouvoir, comme aussi l'opposition, n'a pas d'âme, n'a pas de cœur. C'est ainsi que je me dis, bon, cet appel de ces organisations risque d'échouer s'il n'y a pas une pression active et agissante.
La pression de la part de qui ou pression venant d'où?
Si on peut tabler sur la bonne volonté, je m'excuse madame, si on table sur la bonne volonté, j'espère que nous allons traîner vraiment les pas en longueur. Mais pour le moment, s'il faudrait voir les choses évoluer de l'avant, il faudrait que ces différentes organisations exercent une pression, j'insiste encore une fois de plus, une pression active et agissante, aussi bien du côté du gouvernement et du côté aussi de l'opposition. Parce que il est inconcevable, madame, que depuis le 31 décembre, jusque maintenant, bientôt 2 mois, et on est en train de tourner autour du pot, juste pour un problème d'interprétation du texte. Et j'ai beaucoup salué les informations que nous avons eues sur Okapi, que le président de la République a reçu les évêques, et les évêques lui ont donné l'accord. Alors, j'ai essayé un peu d'analyser pourquoi est-ce que les évêques ont remis l'accord au président de la République. Alors, la lecture que j'ai faite est la suivante, c'est que ils ont implicitement, peut-être sans le déclarer haut et fort, demandé au président de la République de s'enquérir du contenu du dialogue et qu'il tire les leçons qui s'imposent. Parce que il apparaît maintenant que dans le souci de préserver les intérêts et en train de le parler, et en entretemps, la situation tourne au vinaigre. Je voudrais vous dire ceci, madame, que qu'on ne se voile pas la face, l'exercice du pouvoir politique exerce ou imprime un certain nombre d'avantages. Et ces avantages peuvent être observés tant sur le plan matériel, sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, etc., etc. Le pouvoir, il est bon. Le pouvoir, il est succulent. Et aujourd'hui, il n'y a aucun détenteur du pouvoir politique qui peut accepter de le céder ou de le partager avec quelqu'un d'autre. Alors, il en résulte donc que devant cette préservation des intérêts, en tout cas les uns comme les autres ne veulent pas laisser la tâche facile aux uns comme aussi aux autres. Et c'est ainsi que nous sommes en train de tourner autour du pot. C'est pourquoi, pour moi, la lecture que je peux faire, demander ou exhorter les acteurs politiques congolais à faire montre de bonne volonté, je pense que cela se réaliserait si nous étions au ciel. Mais dans le contexte actuel du pays et de l'Afrique d'une manière générale, il faudrait une pression si réellement on veut voir les uns les autres marcher dans le sens de la préservation de l'intérêt général.
Il faudrait une pression. Quel genre de pression et qui doit exercer cette pression sur les acteurs politiques congolais?
Oui, la pression, elle est à la fois interne et aussi externe. Et je pense qu'ici, il faudrait que le peuple congolais se prenne en charge. Le peuple congolais considère vraiment sa destinée et agisse de manière à ce que, bon, les uns, si je parle des uns, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, de faire quand même un effort de dépassement de la préservation de leurs intérêts pour ne regarder que l'intérêt général. Et la pression peut aussi être extérieure ou externe. Et à ce moment-là, nous voyons l'Union africaine qui peut exercer une pression, l'Union européenne et même aussi l'Organisation internationale de la francophonie. Donc je voudrais dire ceci, que la pression doit être à la fois interne et externe.
Merci, professeur Didier Molichon. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Ma belle Angélie, bien depuis Kisangani. Les organisations sont dans une démarche logique, celle d'inciter les parties prenantes à dépasser leurs égos et arrêter de se cantonner autour des intérêts mesquins et des positions cristallisées. Mettre de l'eau dans leur vin a fait d'appliquer cet accord. Car si plusieurs pensent que les blocages profiteraient, n'est-ce pas, à la majorité, nous interpellons les rassemblements à la flexibilité politique pour éviter de jouer le jeu de la majorité, qui est celui du pourrissement de la situation pour gagner du temps.
Réaction.
Merci. Moi, je pense que notre compatriote a pleinement raison. Mais mettre de l'eau dans son vin, je ne sais pas si mettre de l'eau dans son vin n'est pas respecter le texte, alors là, nous ne serons pas d'accord avec lui. Le problème ici, c'est au niveau de nos amis. Vous voyez bien que Maître Mangiolo, même pour réagir, il interprète les choses à sa manière. Tout le monde avait parlé du régime spécial, mais nous sommes en plein dans un régime spécial aujourd'hui. Après la signature de l'accord, c'est le régime spécial, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le Premier ministre ne vient pas d'une majorité. C'est un régime spécial. Nous sommes dans une situation où le Premier ministre est nommé et il est présenté par une opposition, le Rassemblement, qui n'est pas une opposition qui a gagné les élections. C'est un régime spécial. Moi, je pense que les choses pour nous au niveau du Rassemblement sont claires. Si nous sommes dans la situation où nous sommes, c'est parce que quelque part dans ces pays, les gens se sont mis à interpréter les textes à leur manière. Ils ont interprété la Constitution à leur manière et voilà où nous en sommes. Nous avons un accord aujourd'hui, on veut l'interpréter à sa manière, voilà où on est en train de nous conduire. Il parle ici de l'article 24 de l'accord du 18 octobre. Mais cet accord n'existe même plus. Il n'y a pas à parler de l'article 24. Il faut éviter les amalgames. Aujourd'hui, on parle de l'Assemblée nationale. Je suis député national, je suis mieux placé pour le savoir. Nous sommes dans une situation particulière aujourd'hui où toutes les institutions à mandat électif sont fin mandat. Vous vous imaginez, madame? Nous sommes allés à Sand City. Les gens ont discuté. Pour mettre fin à toutes ces crises récurrentes, il fallait mettre fin à la crise de légitimité. Nous voilà replongés dans une crise de légitimité voulue et qui va replonger le pays dans une autre crise si on n'y prend garde. Moi, je pense que les choses sont claires. L'accord, il est clair. On parle du gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre présenté. Mais quand Maître Guillaume Mangiolo parle de candidat, je ne sais pas dans quel texte il a vu les candidats, il n'y a pas de candidat. Il y a le Premier ministre qui est présenté. Il avance ici des éléments, oui, il y a tel qui a dit que tel n'a pas laissé, tel n'a pas laissé. Moi, je lui dis que nous sommes au Rassemblement. Moi, je suis du Rassemblement et je confirme que la lettre a été transmise. Alors, dis des choses l'une.
Alors, puisque la situation semble être bloquée, il faut la débloquer, les choses doivent évoluer. Est-ce que du côté du Rassemblement, c'est difficile pour vous d'être flexible, de proposer 3 noms? Qu'est-ce que vous allez perdre en proposant 3 noms?
Vous savez, madame, que nous sommes dans un régime spécial. Et ce régime spécial voudrait dire que le Premier ministre est présenté par le Rassemblement, c'est-à-dire que le Premier ministre est choisi par le Rassemblement. C'est ça que ça veut dire. Aujourd'hui, on veut que le président de la République choisisse le Premier ministre. Non, madame. Le Premier ministre est choisi par le Rassemblement et il est nommé par le président de la République. C'est tout le sens de ce régime spécial.
Mais donc vous n'allez pas céder?
Ce n'est pas une question de céder ou pas. Vous savez que pour aller aux élections, nous devons maintenir des équilibres. Les gouvernements, nous avons... C'est parce que vous voyez, les grands problèmes, c'est que les gens ne comprennent pas. Pourquoi les rassemblements veulent diriger le gouvernement? C'est tout simplement pour avoir des garanties d'aller aux élections dans le délai fixé par l'accord. Si aujourd'hui on met un premier ministre qui n'est pas celui désigné et qui n'est pas celui proposé par le rassemblement, qui est choisi par d'autres composantes, mais ce premier ministre ne va pas nous amener aux élections.
Le rassemblement propose 3 noms.
Le rassemblement propose le premier ministre.
Merci, Monsieur Moulicho. Maître Mangiolo, on a aussi une réaction pour vous. Qui nous vient de Kindu?
Augustin Katanga, depuis la ville de Kindu. Nous sommes fatigués du manque de maturité de la classe politique congolaise, vu la mauvaise foi de la MP qui ne veut pas respecter les engagements de la Saint-Sylvestre. Le peuple congolais a besoin des élections, car les institutions politiques sont illégitimes. La preuve, dans tous les pays, il y a les contestations des groupes armés. Il est temps de trouver une solution que le Premier ministre puisse rapidement être nommé pour calmer les tensions et appuie totalement ces organisations internationales.
Maître Mangiolo.
Merci à celui qui est intervenu, même s'il a une position particulière. Il a une compréhension qui est la sienne. Je peux comprendre aussi les frustrations de la population après autant de déraillements. Mais en même temps, ce que j'entends n'est pas conforme à ce qui doit être dit. Dans quel texte avons-nous vu que nous sommes dans un régime spécial? Il n'y a aucun texte qui dit régime spécial, ça n'existait pas. Dans les textes qui disent...
Mais dans la Constitution, elle a donné l'exemple du Premier ministre. Quand c'est l'opposition qui doit proposer un Premier ministre, est-ce que c'est dit dans la Constitution? Est-ce que c'est constitutionnel?
On va y venir. Madame, permettez que je puisse d'abord interpeller l'honorable député sur un certain nombre de choses qui ne sont pas correctes. Il dit, nous sommes dans un régime spécial. Lorsqu'on leur a posé la question sur les régimes spéciaux, ils nous ont dit que c'était sur le fondement de l'article 64. C'était ça, le régime spécial. C'était ça. Dans les textes, il est dit, la période électorale est préélectorale. Nulle part on parle de régime spécial. Parce que leur définition correspondait à l'article 64. C'est-à-dire, prendre les pouvoirs par la force des cas échéant et anéantir toutes les institutions. C'était ça, le régime spécial. On ne peut pas aujourd'hui déplacer les curseurs parce que les choses n'ont pas marché. Voyez-vous, on arrive à ça. Maintenant, pour revenir à ce qui a été dit ici, madame, lorsque l'honorable député nous dit oui, parce qu'on est en train d'éviter à ce qu'on prenne quelqu'un d'une autre composante, il ne s'agit pas de ça. Les textes disent quelqu'un du RASOP. J'ai dit sortons de la sacralité des individus. Essayons d'aller vers l'essentiel. Essayons de mettre en place des mécanismes qui ne parlent pas d'individus, qui parlent simplement des textes. Si on amène trois personnes, est-ce qu'au niveau du rassemblement, il n'y a pas trois personnes outillées? On a les anciens ministres, très très compétents, dans ce groupe-là et tout. Et comme par hasard, il est impossible de sortir trois noms. En fait, ils n'auraient confiance qu'à une seule personne capable de gérer, les autres, ils n'ont pas confiance.
C'est leur choix. Vous n'allez pas leur imposer un choix?
Non, ce n'est pas question d'imposer un choix. C'est question de dire que la procédure telle qu'on essaie de pouvoir l'organiser dans cette république consiste à permettre à celui qui garde encore l'impérium et toutes les prérogatives de son institution, c'est-à-dire le président de la République, de pouvoir opérer un choix sur ce qu'on lui propose de cette famille politique-là. On ne lui a pas dit, on ne leur a pas dit de nous amener des gens qui viendraient d'ailleurs que du rassemblement. Il s'agit du rassemblement. Et d'ailleurs, vous voyez très bien, madame, et c'est pour, il faut être un peu froid, qu'au niveau du rassemblement, il y a déjà un problème. Il y a un problème de légitimité des uns et des autres. Ils sont en train de se lancer à la figure, la légitimité de l'opposition. Donc, ça pose un problème à ce niveau-là. Il ne faut pas regarder seulement d'un côté, regarder de l'autre côté aussi. Vous dites, vous, en tant que journaliste, que l'abbé Chollet a dit qu'il n'a pas reçu la correspondance. On vous dit non, il a reçu la correspondance. Finalement, tout le monde ment, sauf le rassemblement. On en est là. On voit la hauteur de ce qu'on veut nous vendre comme bonne foi, qui n'est pas du tout une bonne foi, qui est une mauvaise foi qu'on est en train de teinter en une sorte de bonne foi de seconde zone, qui ne marche pas du tout. Ce sont des grands politiques. Ils savent très bien de quoi il s'agit. Madame, la lutte qui a été menée entre 2015, fin 2015, 2016 et aujourd'hui était d'aller aux élections. Rien que les élections. On ne parlait pas des postes. Vous voyez comment est-ce qu'on a déplacé les curseurs. On est sorti de la lutte pour aller aux élections, puisque ce qui demandait, c'est tout de suite les élections. Mais finalement, on ne parle plus de toutes les élections, on ne parle plus que des postes, des postes et des
mais
postes.
Mais il faudrait bien nommer un Premier ministre.
Madame, l'équation trois personnes du rassemblement n'est pas une équation qui permet de nommer un Premier ministre. Pourquoi cette équation a été écartée absolument? Pourquoi est-elle écartée absolument?
Mais qu'est-ce que vous pensez des... toutes ces personnes qui estiment que c'est vous de la majorité qui bloquez la machine. Vous ne voulez pas que la situation puisse évoluer.
C'est une posture, madame. C'est tout simplement une posture. Ce qui est demandé est tout à fait normal un peu partout. On leur demande simplement de donner trois noms. Les rassemblements avec pléthore d'anciens ministres, pléthore des hommes très, très, comment dire, construits, et comme par hasard, ils n'auraient qu'une seule personne. Et les autres, on n'aurait pas confiance en eux parce qu'ils seraient corrompus éventuellement et ils bloqueraient les systèmes au profit de la majorité. Mais, pourtant, c'est une sinécure. Qu'on nous propose trois personnes, c'est simple. Si c'est fait demain, on a un Premier ministre de leur obédience. J'ai dit bien de leur obédience. Alors, soit ils n'ont pas confiance entre eux.
S'il n'y a pas trois, non, les choses restent telles qu'elles sont.
Mais autre chose encore, madame, c'est que le professeur a dit, et c'est très important de pouvoir... Oui. Le professeur dit, si la Cinco est partie amener les documents chez le président de la République, c'est pour aller lui montrer... Mais non, c'est pas ça du tout. J'ai dit ici, Les mandants, c'est le président de la République. C'est lui qui a mandaté la CENCO. Donc la CENCO est partie en mission et ramène l'objet de la mission. C'était ça.
Merci, maître Manjolo. Professeur, on a aussi pour vous une réaction qui nous vient de Lubumbashi.
François Moulila de Lubumbashi. Aussi longtemps, ces organisations se limiteront que dans le langage diplomatique, cela ne fera absolument rien. Ainsi, j'exhorterai à ces organisations de franchir cette étape que je qualifie d'hypocrisie en attaquant directement les auteurs qui, du reste, sont bien identifiés et identifiables.
Alors, je rejoins un peu votre point de vue, professeur. Il faut faire pression sur les politiques.
Ok, merci beaucoup, madame. Je crois que l'intervenant me rejoint. Il s'est avéré que, et ça c'est mon observation, que dans le contexte actuel des choses, les acteurs politiques congolais ne peuvent agir dans le sens des intérêts du peuple ou de l'intérêt général lorsque il y a une pression qui est exercée sur eux. Alors, tabler sur la bonne foi, madame, je dis encore une fois de plus que la politique en RDC n'a pas d'âme, n'a pas de cœur devant la préservation des intérêts. Je voudrais réagir aussi en complétant ce que j'avais déjà avancé bien avant dans ma première intervention. Je confirme en disant ceci que c'est vrai, les évêques sont allés voir le président de la République, ils lui ont remis la Corse. C'est tout à fait normal parce que nous avons appris en son temps qu'il y avait même des gens du camp de la majorité qui disaient que non, les évêques ont échoué. Mais le soir, le président de la République est allé voir les évêques pour leur apporter son soutien. Alors, posons-nous un peu la question. Je voudrais que nous puissions rester dans la pratique politique. Le gouvernement s'est rallié beaucoup plus et sans tellement de conditions au dialogue ou à l'accord qui a été conclu par M. Edem Kodjo. Dans cet accord, il était prévu que le Premier ministre soit proposé par l'opposition ayant pris et en fait partie aux accords. Et l'opposition a présenté Sani Badibang. Et en ce temps-là, a-t-on posé le problème que l'opposition présente trois candidats? Et pourquoi la présentation de la candidature de Sani Badibang n'avait jamais posé de problème? Et aujourd'hui, on doit dire, l'opposition doit présenter trois candidats. Et ce n'est ni moins, et ça c'est ma lecture, ni moins, ni plus que des calculs politiciens. Et parce que, je peux même me permettre de dire que je demande aux acteurs politiques de mettre à l'avant-plan l'intérêt du peuple. Donc cela signifie que j'ai fait encore appel à leur bonne volonté. Or, il s'avère dans le contexte actuel que les acteurs politiques congolais ne font pas montre de bonne volonté. C'est pourquoi, dans le contexte actuel des choses, il faut la pression. La pression interne, comme aussi la pression externe. Si réellement nous voulons être maîtres de notre devenir, de notre avenir et de notre futur. Voilà un peu ce que peut être ma réaction par rapport à la préoccupation de l'intervenant et aussi ma réaction aux autres interventions.
Alors, professeur, vous parlez des pressions, mais on sait que la communauté ou les organisations internationales, c'est l'impression que les gens ont, hein, même si vous demandez à la communauté internationale de faire pression, on a l'impression que c'est basé beaucoup plus sur des déclarations, mais il n'y a rien de concret comme pression qui peut pousser les acteurs politiques à mettre en application, à mettre en œuvre cet accord.
Oui, madame, j'ai bien parlé. Il ne s'agit pas d'une pression déclarative, j'insiste, une pression active et agissante. Parce que, tabler sur la bonne volonté, je reviens encore là une fois de plus, madame, nous risquons de faire longtemps en train de tourner autour du pot et à la fin,
On dira même, on va présenter l'inutilité de tous les efforts fournis par les évêques, et il n'est pas surprenant que nous puissions encore arriver à une troisième voie.
Merci.
Qui mettrait et qui rendrait caduque tous les efforts fournis jusque-là. Et
merci,
vous vous souviendrez, dans une de mes interventions, j'avais même déjà autrefois annoncé que si on n'en tient pas garde, rassurez-vous, l'accord de Saint-Sylvestre ici risquerait d'être mis en application au mois de mars.
Merci, et professeur. On vous redonne la parole. Monsieur Molichaud, il faut trouver une solution. Le processus semble être bloqué. Maître Mandolo l'a dit tout à l'heure. Au début, c'était la pression pour organiser les élections. Je donne l'impression que les gens se battent beaucoup plus pour les postes.
Non, madame, c'est là où je dis que la mauvaise foi, elle est manifeste. Les postes ne sont qu'une conséquence pour les garanties d'aller aux élections. C'est pas que les gens se battent pour le poste. Vous voyez bien le communiqué des quatre organisations spécifique que la mise en œuvre intégrale de l'accord garantit la légitimité des institutions. J'ai rappelé ici que toutes les institutions ne sont plus légitimes. Nous devons aller rapidement aux élections pour avoir des institutions légitimes. C'est ça notre préoccupation. C'est pour cette raison qu'on doit mettre en œuvre de façon intégrale. La lettre présentant le premier ministre qui doit conduire le gouvernement existe bel et bien. Le rassemblement se fera fort de publier l'accusé de réception de la lettre, parce que nous sommes quand même organisés. Il y a quelqu'un qui a accusé réception de cette lettre. Il doit savoir qu'il a accusé réception et qu'il a signé. Les moments venus, on publiera l'accusé de réception de cette lettre et on verra qui dit vrai. Deuxième chose, madame, mais vous savez, quand on dit oui, ils sont en train maintenant de parler pour le poste et tout ça. Non, 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 madame, il ne faut pas tromper le peuple.
Vous allez aussi conclure.
Nous sommes, moi qui vous parle, je suis du G7. Le G7, nous avons quitté le poste. Nous ne pouvons pas aujourd'hui venir nous battre pour le poste parce que nous les avons abandonnés. Si aujourd'hui nous parlons du gouvernement, c'est pour avoir des garanties d'aller aux élections. Et pour ça, nous devons occuper des positions pour nous amener aux élections. C'est tout simplement pour ça. Donc, je reviens pour dire que nous sommes dans un régime spécial où le Premier ministre est présenté par le Rassemblement et la lettre existe. Et on attend que le Premier ministre soit nommé pour que le gouvernement soit mis en place.
Merci, M. Molichaud. M. Mandolo, votre conclusion. Qu'est-ce qu'il faut faire, finalement, pour sortir de cette impasse?
Madame, vous avez dit que j'étais du Parti chrétien, donc j'essaie de faire un effort pour rester dans les droits chemins, ne pas sortir en regard des sentiments, à un moment donné, d'y dire ce qui n'est pas convenable. Il semble tout simplement que lorsque j'entends les professeurs parler de la communauté internationale, elle a été à la Cité de l'Union africaine. Toutes réunies. Ça n'a pas plu à un certain nombre d'acteurs politiques, ils ont refusé. Parce qu'ils ont même condamné la communauté internationale comme étant complice de la majorité. Voyez-vous jusqu'où on peut aller en termes de mauvaise foi.
Mais aujourd'hui, toute cette communauté internationale soutient l'accord de la CENCO.
La même communauté internationale était à la Cité de l'Union africaine, avec les mêmes acteurs. Avec les mêmes acteurs, madame. Donc si on veut parler de la pression, il aurait fait l'affaire en ce moment-là. Elle était là. On l'a récusée. Aujourd'hui, on revient pour nous en parler encore. C'est même pas nécessaire. Parce que ça n'a pas de sens dans la mesure où on a pris une autre option, qui est une option congolaise. Simplement, ce que j'appelle, c'est la paix et les ajustements raisonnables. Proposer trois noms, il me semble que vous avez des personnalités tout à fait compétentes pour pouvoir répondre, compétentes plutôt pour répondre
Maître
à cette exigence.
Mandolo, professeur, un mot en guise de conclusion, juste un mot.
Ok, merci beaucoup. Étant donné que les acteurs politiques congolais ne font pas montre de bonne volonté, j'insiste encore sur l'exercice d'une pression sur eux de manière à décrister la situation en RDC.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite des programmes sur la fréquence de la Terre.